Je vous invite à trouver Matthieu chapitre 5, l'évangile de Matthieu chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 13. Le Seigneur Jésus continue sa prédication, son sermon sur la montagne, et il dit à ses disciples: c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vais, sans introduction, entrer tout de suite dans notre réflexion ensemble en tant qu'Église sur cette grande réalité qui est vraiment là où nous vivons notre privilège et notre responsabilité d'être une lumière dans ce monde. Et je vais vous parler de quatre choses. Notre identité étonnante, notre impact profond, nos pièges dangereux et notre champ d'action tout près. D'accord? On va commencer avec notre identité. Le Seigneur nous dit: c'est vous qui êtes le sel de la terre. Imaginez la scène, quelques dizaines de disciples au plus réunis devant Jésus, et Jésus les regarde en face et leur dit: c'est vous qui êtes le sel de la terre, de la planète Terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde entier. Et il nous dit ça à nous aujourd'hui. C'est extrêmement étonnant de nous dire à nous que nous sommes la lumière du monde. Vous savez que parfois, pour une personne malade, on met une substance fluorescente dans le corps, dans une partie du corps ou peut-être dans le sang, pour irradier, pour illuminer une partie du corps pour qu'on puisse le voir. Et lorsqu'on regarde dans la radio, dans la machine, on voit un point lumineux ou des points. Si c'est quelque chose dans le sang, on voit se balader des points de lumière, alors que le reste du corps est plus ou moins sombre par rapport à cela. Et imaginez qu'on puisse voir à travers les lunettes du Seigneur, quand il regarde ce monde de plus de 6 milliards de personnes, il voit des points de lumière ici et là, et c'est vous. Tout le monde entier est plongé dans une obscurité profonde. À Bouc-Bel-Air, à Aix, dans votre village, les hommes sont vraiment, selon la Bible, plongés dans des ténèbres terribles. Ils ne voient pas des réalités vraiment glorieuses et lumineuses au sujet de Dieu. Qu'il est là, qu'est-ce qu'il veut? Ils sont complètement enténébrés, et puis il y a vous. Et lorsque Dieu voit la situation humaine, c'est bizarre de le dire, nous sommes minables, nous. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous vous voyez comme cela? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le discours intérieur, interne. Vous comprenez ce que je dis? Tout le monde se parle constamment. Vous vous parlez constamment. Et vous vous dites des choses au sujet de vous-même. Vous vous rappelez dans la Bible quelques discours intérieurs. Nous étions que des sauterelles à nos yeux devant eux. Ou bien, Seigneur, je ne suis qu'un jeune. Voilà, discours intérieur que le Seigneur n'est pas d'accord. Ne dites pas, je suis qu'un jeune. Et vous aussi, vous avez un discours intérieur devant le monde, et parfois, vous ne vous voyez pas comme ce que vous êtes. Vous êtes la lumière du monde. C'est extrêmement important que nous changions, que nous soyons changés dans notre manière de nous considérer, parce que nous sommes la lumière du monde. Et il faut qu'on se nourrisse de cela. Maintenant, je sais très bien que parfois vous vous sentez pas très lumineux. Hier, j'ai passé une de ces journées où je voulais une seule chose, recommencer ma vie chrétienne dès le départ. Une journée horrible, spirituellement. Mais ça ne change rien, parce que la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne nous dit pas « Soyez des lumières pour le monde ». Ce n'est pas un commandement, c'est une affirmation. Dieu lui-même vient vous dire « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde, avec toutes vos imperfections, ainsi de suite. Croyez-le, croyez-le, sachez-le. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer si vous vous dites, je suis une partie de la lumière du monde? En Christ, bien sûr, c'est lui la vraie lumière. Mais comme Joël vous a dit en Éphésiens Christ, nous sommes lumière dans le Seigneur, par lui. Bien, la prochaine fois que vous avez la possibilité d'être un témoin pour Christ, vous aurez plus de confiance, sans doute. Nous sommes la lumière du monde. Peut-être vous allez vous sentir plus de responsabilité aussi. Vous êtes la lumière du monde. Vous avez vu ce que le Seigneur dit au sujet de la responsabilité. Si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous n'avez pas de choix, chers amis. Moi non plus. On ne peut pas se dire, je ne vais pas changer mon discours intérieur. Peut-être je suis la lumière du monde, mais je ne veux pas l'être. Si vous êtes dans cette situation, vous serez rejeté au dernier jour. Vous n'avez pas de choix. Vous devez, et moi je dois, vivre cette identité qui est la nôtre. D'accord? Nous sommes la lumière du monde. Laissons briller la lumière du Christ qui est en nous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, notre impact profond. Regardez à la fin du passage, dans le verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin, voilà l'impact, voilà ce qui va se passer chez les autres, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur nous dit que par vous et par moi, et nos œuvres bonnes, je vais parler des œuvres bonnes tout à l'heure, il va y avoir un impact. Mais un impact assez incroyable. Parce que Jésus nous dit que les hommes vont voir nos œuvres bonnes et ils vont, eux, à leur tour, glorifier le Père. Ça ne veut pas dire, comme on le pense souvent, que des non-chrétiens, tout en restant non-chrétiens, vont dire, en étant bénéficiaires de vos œuvres bonnes, vos actes de gentillesse, le non-chrétien va dire, ah, Dieu, si tu es là, ben merci bien pour ces chrétiens, ils sont très gentils. C'est pas ça. Jésus parle de la conversion quand il dit, ils voient vos œuvres bonnes et eux, et il glorifie le Père qui est dans les cieux. Le non-chrétien fait deux choses. Il ne remercie pas Dieu et il ne glorifie pas Dieu. Romains chapitre 1. Et quand on dit que ces gens qui voient vos œuvres bonnes vont finir, enfin eux, glorifier Dieu, la Bible est en train de parler du fait que la lumière a ouvert les yeux, ils considèrent le Père digne de gloire maintenant à cause de vous. Donc la Bible dit que nous avons la possibilité d'avoir un impact profond, profond sur les gens. Vous pouvez peut-être vous demander, mais comment est-ce que ça peut se passer? Et Jésus nous donne deux images, le sel et la lumière. Alors, vous allez avoir cet impact sur les gens, vous l'avez eu et vous l'aurez de plus en plus, un impact comme le sel. Alors, regardez le sel. Verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, ou d'autres versions traduisent, si le sel perd sa saveur, c'est plus littéral cette traduction. Jésus parle dans ce verset, dans la manière littérale dont il a dit, de la saveur. Parfois, les gens disent que le sel, c'est une image du principe conservateur. Le sel était utilisé pour empêcher les choses de pourrir à l'Antiquité, n'est-ce pas? Et nous, par notre vie juste et bonne, on empêche le monde de pourrir complètement. C'est sans doute vrai, mais ce n'est pas de ça que Jésus parle ici. Il parle non pas du principe du principe conservateur du sel, mais de sa saveur, de sa saveur. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, le sel est un releveur de goût, n'est-ce pas? Sans le sel, le pain, on est allé à la boulangerie un jour, on a acheté un pain, une baguette, on est rentré à la maison et on a mordu dans ce pain, on a dit, oh, c'est terrible! On l'a jeté dans la poubelle, pour une seule raison, il n'y avait pas de sel dans le pain. Pas de sel, pas de saveur. Comment est-ce que vous allez avoir un impact sur le monde par votre saveur? On dit parfois qu'on peut mener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas l'obliger de boire. Parce qu'il n'a pas soif. Ah, mais il y a une autre chose qu'on peut faire. On peut donner soif à quelqu'un. Comment est-ce qu'on donne soif ou on donne appétit à quelqu'un? En français, on dit une mise en bouche, amuse-gueule, n'est-ce pas? On lui donne quelque chose avec une très bonne saveur et, ah, j'ai vraiment envie de manger maintenant. Et nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la saveur qui donne soif. Mettez un peu de sel dans la bouche de quelqu'un, il aura besoin de boire, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que ce soit exactement l'image, mais quelque chose de ce genre est dans la pensée du Seigneur, que nous comprenions que par notre saveur, et combien de fois en tant que pasteur j'ai entendu des chrétiens donner leur témoignage, pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien? Parce que j'ai rencontré quelqu'un dans la vie. Pendant des semaines et des mois, m'a poussé à dire, j'ai vraiment envie d'avoir ce que cette personne a. Ah, c'est quoi? Ah, c'est ça, le sel. La saveur qui n'est pas présente ailleurs dans le monde, mais chez lui, je le retrouve et ça me donne ce que je n'ai pas eu avant, envie. Est-ce que vous et moi, on est des gens dans la vie, simplement la vie, sans rien dire, hein, votre vie donne envie à quelqu'un d'avoir ce que vous avez. Et peut-être nous ferions bien de dire cette année, je vais me concentrer, me focaliser sur une chose. Seigneur, donne-moi une vie qui donne envie aux autres. Donne-moi une vie, une joie, une paix, un amour qui donne envie aux autres. On doit commencer là. Nous, on aime beaucoup parler. On pense beaucoup au fait d'aller dire les choses aux gens. Mais les gens n'ont pas envie d'entendre. N'est-ce pas? Et si, pour une année, nous disions, nous allons devenir un sel avec une vraie saveur. Comme la lumière. J'ai dit comme le ciel, mais comme la lumière. Jésus donne une deuxième image. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il parle de briller, afin que les hommes voient. Alors, cette image est assez claire. La lumière fait voir ce qu'on n'a pas vu. Et nos œuvres bonnes, selon ce verset, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et vous glorifient, afin qu'ils disent, ah, vous êtes merveilleux. Non, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils voient vos bonnes œuvres et ils disent, oh, combien Dieu est magnifique. Pourquoi est-ce qu'ils voient mes bonnes œuvres et ils réalisent combien Dieu, le Père, est bon et magnifique? Regardez avec moi en Jean chapitre 14. Parce que quand les gens ont vu, vraiment vu, la vie de Jésus, son amour, sa grâce, leur réponse était, maintenant je comprends qui est le Père et combien il est magnifique. N'est-ce pas? Et nous devons jouer le même rôle. Verset 8 dans le chapitre 14. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parfois, on pense que c'est simplement parce que Jésus et le Père sont le même. Ils ont le même caractère exactement. Et ça, c'est une vérité, et Jésus le dit ailleurs. Mais il explique autrement ici. Regardez bien. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Tu as vu ma vie? Et je vous explique, ce que vous avez vu n'était pas moi. Ce n'est pas le fait que je suis comme le Père. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas ça. C'est le fait que le Père est en moi et c'est lui qui accomplit ses œuvres. Et quand vous voyez mes œuvres, vous dites, ah, maintenant je vois qui est le Père. Dans une ville, il y a en Australie, il y avait une famille assez pauvre. La maman a eu un cancer cervical. C'était les années 70. Les traitements pour les cancers cervicales?
Du col de l'utérus, on dit.
Oui, ok. Donc, oui, parce que ça va, oui, je comprends, oui, du col de l'utérus, merci. Donc, les traitements étaient expérimentaux et extrêmement chers. Et cette famille n'avait pas de quoi payer. Cette maman voulait voir ses quatre enfants grandir, quatre petits enfants, et ne pas mourir et laisser ses enfants grandir en tant qu'orphelins. C'est une vraie histoire. Mais elle savait que ses options étaient très limitées. Jusqu'au jour où quelqu'un a frappé de manière inattendue à la porte de la maison. En ouvrant la porte, la maman trouve des personnes de l'église baptiste du voisinage. La famille n'était jamais allée à l'église. La famille ne connaissait pas les gens de l'église. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Église a eu la nouvelle du cancer de cette dame. Et les gens de l'église ont dit à cette dame, si vous permettez, nous voulions vous offrir de payer pour votre traitement de cancer. Alors, cette dame a été traitée, le traitement a réussi, sa vie était sauvée. Pendant les 6 mois de récupération, de chimio, etc., l'église a pris les 4 enfants. Ils étaient un peu dispatchés dans la semaine chez des parents. Mais chaque dimanche, les 4 enfants allaient au culte et passaient l'après-midi chez le pasteur, manger avec lui. Et 30 ans plus tard, un des enfants qui s'appelle Cathy se convertit. Maintenant, elle est mariée. Disons que la famille elle-même a fréquenté l'église un peu après l'opération. Vous pouvez comprendre qu'ils allaient à l'église, mais petit à petit, ça s'est estompé. Des années passent. Et maintenant, cet enfant est devenu une dame, Cathy, elle a dans sa trentaine, elle a des enfants qui commencent à poser des questions sur la foi chrétienne. Et voilà ce que le pasteur raconte, qui est au courant de cette histoire. Quand Cathy raconte son histoire de conversion, parce qu'elle s'est convertie, elle ne laisse aucun doute vis-à-vis du facteur crucial dans son itinéraire vers la foi, vers la conversion. C'était la bonté de l'église baptiste, je cite, c'est Cathy qui le dit, qui était 100% responsable pour ma conversion. C'était la bonté, pas les paroles, la bonté de l'église baptiste qui était 100%. Écoutez bien, et voilà ce que je cite encore. La manière dont cette assemblée a traité ma famille m'a convaincu qu'il y avait un Dieu et qu'il m'aimait. Elle a vu les bonnes œuvres et elle a compris combien Dieu était bon. Voilà l'impact profond que nous pouvons avoir. Nos pièges dangereux, nous avons parlé de notre identité étonnante, nous avons parlé de notre impact profond, et maintenant nos pièges dangereux. Il y en a deux, rapidement. Il y a la tendance monastère et il y a la tendance chameleon. D'abord, la tendance monastère. Nous lisons dans les versets 14 à 15. « C'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Nous avons une tendance parfois à cacher notre lumière. Le Seigneur la met là pour que tout le monde puisse voir. Mais quand on vient à Christ, il y a quelque chose d'étrange qui arrive. On n'a plus de plaisir dans les plaisanteries immorales de nos anciens copains. On n'a plus de plaisir dans ces relations remplies de vantardises, d'orgueil, de mensonges, de prétextes. Et quand on est avec les chrétiens, même avec toutes leurs imperfections, c'est différent. Ils disent la vérité. Ils essaient d'être gentils. Ils n'ont pas besoin de se vanter tout le temps. Ils ne parlent pas d'immoralité constamment. Et qu'est-ce qu'on fait? De plus en plus, on se retire du monde. La lumière qui devait être proche, visible à tous dans le monde, maintenant se retire dans un coin avec d'autres chrétiens et personne ne voit. Parce que nous n'avons plus de contact proche avec les gens non chrétiens. Et Jésus dit, faites attention. J'ai mis la lumière comme une ville sur une montagne pour que tous puissent voir. Ne cachez pas votre lumière. Nous devons penser à nous-mêmes. Est-ce que nous avons cette tendance d'être tellement, parfois on en a tellement marre du monde avec son injustice, que le monde devient notre ennemi? Et non, le monde n'est pas notre ennemi dans ce sens. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de vous. Vos voisins ont besoin de votre amitié. Les gens au travail ont besoin de votre christianisme, de votre bonté, de votre justice, de votre vérité. Ont besoin d'un contact assez proche pour qu'ils puissent voir quelque chose qui brille. Et donc, nous avons vraiment besoin de nous efforcer d'être en contact. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que ça change? Petite invitation à une tisane, à un repas, d'aller au repas du voisinage, de tisser des liens d'une manière ou d'une autre, de vous joindre à une association. En tout cas, il faut que vous ayez une vie normale, relationnelle dans le monde. Le monde a besoin de vous. Deuxième piège, la tendance caméléon. Alors, vous savez que le caméléon, sa spécialité, c'est quoi? C'est ça? Pardon. Oui, caméléon, c'est ça? Caméléon. Ok, ouais. Excusez-moi. Bon, cet animal, vous savez que sa spécialité, c'est de se confondre avec l'environnement, n'est-ce pas? C'est de devenir indistingué, indifférencié, tout à fait comme ce qui l'entoure. Et ça, c'est l'autre possibilité. Si c'est pas d'être tellement différent qu'on ne supporte plus d'être avec le monde, on se retire, c'est de faire le contraire. Et parfois, les chrétiens font ça parce qu'on veut être aimé. N'est-ce pas? On ne veut pas être tellement différent que les gens disent, oh, vous là, n'est-ce pas? Ou bien, parfois, on veut tellement gagner les gens à Christ, leur faire découvrir le Seigneur, qu'on se dit, ben si, on s'habille comme eux, on écoute exactement la même musique, on est vraiment comme eux, ils vont nous écouter, ils vont nous respecter. Et il y a un problème là. Il y a une part de vérité, parce que on n'est pas appelé à être bizarre, n'est-ce pas, pour être bizarre, mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Et cette différence spirituelle et morale doit rester. Sinon, il n'y a plus de saveur. Il n'y a plus de lumière. Quand vous vous confondez dans le monde chrétien et personne ne sait au travail, pendant des années ou dans le voisinage, que vous êtes chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de tomber dans ce deuxième piège. Je me souviens d'une émission d'envoyé spécial que j'ai vue il y a quelques années. Ils ont mis une caméra cachée dans une formation d'employés de Darty. Et donc, le formateur apprenait aux employés comment vendre ces garanties de rallonge. Tu achètes un appareil et on vous offre un rallonge de 2 ans de plus pour tant d'argent, n'est-ce pas? Et le formateur a dit, ben, c'est garanti, c'est pas pour le client, c'est pour augmenter la marge de la société. Et il a dit ceci textuellement, il a dit, si vous racontez des conneries assez rapidement, en regardant droit dans les yeux des gens, ils vous croiront. Maintenant, imaginez que vous êtes chrétien dans cette formation. Si vous vous taisez, si vous faites le caméléon et vous vous confondez avec tout le monde, personne ne voit aucune lumière dans ce monde de mensonges incroyables. Mais si vous dites, monsieur, gentiment, vous êtes en train de me demander de mentir à mes clients, de leur faire du mal. Est-ce que vous voulez que qu'on vous fasse cela? Nous devons avoir assez de différences et être assez abrasifs, parfois, pas d'une manière mauvaise, mais bonne, parfois, pour que la lumière puisse briller. C'est peut-être une illustration un peu négative. Il y a beaucoup de manières positives. Mais parfois, il faut parler. Il faut sortir de l'anonymat, de l'inconnu, des ténèbres. Où est-ce que vous en êtes par rapport à foi, par rapport à ça? Est-ce que vous avez besoin aussi d'éviter ce piège? Et de laisser luire votre lumière. Je finis avec le quatrième point, notre champ d'action tout près. Où est-ce qu'on va et comment, oui, dans quel contexte est-ce qu'on va pouvoir faire tout cela? Être des lumières pour amener les gens à comprendre qui est Dieu et l'Évangile. À la fin du passage, verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. La première chose, avant de dire juste, c'est le dernier mot au sujet du champ d'action, je veux parler des actions. Parce que Jésus ne parle pas du tout ici de paroles. C'est un peu sous-entendu, mais surtout, il parle d'une vie qui parle. D'accord? Une vie qui parle. Il dit, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. Maintenant, où est-ce que les gens qui travaillent là où vous travaillez, où vous étudiez, où vous avez votre occupation, comment est-ce qu'ils peuvent voir la lumière? Ils vont pas le voir dans une rencontre religieuse parce qu'ils viennent pas dedans. S'ils vont voir la lumière, ils vont le voir au travail, là où vous êtes, dans le voisinage, à l'école, dans la salle de classe, dans le réfectoire, dans la famille étendue, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la vie ordinaire qui est le champ d'action vraiment principal pour cet témoignage merveilleux que nous avons apporté. C'est là que les gens voient nos bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres? Bon, Joël a lu que le fruit de la lumière consiste en bonté, justice et vérité. Jésus vient de dire que les chrétiens sont des faiseurs de paix, sont les miséricordieux. Il va plus tard dire beaucoup d'autres choses. Ils sont fidèles au mariage. Ils sont toutes ces œuvres de compassion, d'amour envers celui qui n'est pas aimable, de vérité, de justice. Je vous donne quelques exemples maintenant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce champ d'action, vous pouvez tous le faire. Même si vous n'êtes pas très habile de parole, vous avez une vie qui parle. Et exhorte les esclaves, dit Paul à Tite, à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Mauvaise traduction, En vérité, ce n'est pas afin de faire honorer l'évangile, la doctrine de Dieu, mais plutôt afin de pareil, afin d'embellir, afin de bien vêtir la doctrine de Dieu. Vous voyez que l'évangile doit avoir des bons vêtements pour se présenter, être accueilli et accepté par les gens. Il faut que l'évangile soit bien vêtu et son vêtement, c'est votre vie. C'est votre vie. C'est ça que les gens voient d'abord et ils disent, ah, ça c'est très agréable, très belle. Je veux en savoir plus. Un pasteur norvégien raconte comment un de ses parents est devenu chrétien. Ce parent raconte que il n'aimait pas le christianisme. Il n'avait pas de confiance que les chrétiens avaient quelque chose de réel et de sincère. Jusqu'au jour où, dans son village, il y a bien longtemps, chacun avait une parcelle de la route dont il devait prendre soin. D'accord? Nous parlons d'il y a un siècle ou même un peu plus. Donc, la ville s'était organisée pour que chacun entretienne un peu c'était peut-être une piste battue, une partie de la route. Donc ce parent de ce pasteur, un jour, arrive chez un de ses cousins ou ses neveux, et il voit que l'homme est en train de travailler dur à côté de la rue, avec son pelle, pour bien aplatir, bien arranger la route. Et il dit, est-ce que tu n'as pas entendu que la ville va réallouer, pardon, les parcelles et que vous risquez fort bien de ne plus avoir cette parcelle? Donc arrête, arrête de travailler. C'est pas ta partie maintenant. Le monsieur répond, j'ai bien su, j'ai bien entendu que la ville était sur le point d'allouer de nouveau des parcelles. Et c'est justement pour ça que j'arrange bien ma parcelle pour que la personne qui va reprendre ça ait une piste bien travaillée. Le parent a dit que c'est à partir de ce jour qu'il a compris que là, il y a quelqu'un de véritablement intègre et bon. Personne, en principe, ne voyait ce qu'il faisait. Moi, je suis arrivé par hasard. Personne n'aurait su qu'il était en train de se... Il faisait ça par pure bonté. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à investiguer le christianisme. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Voilà le champ d'action qui est à côté d'une rue. Deuxième exemple. L'auteur de roman le plus connu en Australie s'appelle Tim Winston. Il a vendu des millions de livres et il est chrétien évangélique. Il raconte comment lui, il est devenu chrétien. Son père a eu un terrible accident de voiture et il a dit que son père, c'est comme si son père lui a été rendu, on l'a plaqué dans une chaise roulante. On avait recollé le morceau et on lui avait dit, voici ton père. Mais ce n'était pas son père. Son père était tellement abîmé, tellement plus lui-même, que c'était un drame émotionnel pour lui. Quelques jours après la rentrée de son papa, son père était un homme très grand, sa maman n'arrivait vraiment pas à se le soulever pour le mettre dans le bain, pour le laver, chose qu'il ne pouvait plus le faire. Et heureusement, quelques jours seulement après la rentrée du papa, quelqu'un frappe à la porte et un homme un peu brusque, un paysan, dit « Bonjour, je viens de l'église à côté, je m'appelle Len. J'ai su que ton mari était un peu cassé. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire ? » Et à partir de ce jour, ce monsieur a commencé à venir chaque jour pour soulever le papa de sa chaise roulante, pour le laver lui-même, ce que les grands Australiens ne faisaient pas d'habitude. Et c'est cette action qui a touché le cœur de Tim Winston en tant que jeune homme et qui l'a mis sur le chemin de la foi chrétienne. Que votre lumière luit devant les hommes, dans un champ d'action tout ordinaire, afin que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier le Père. Que le Seigneur nous aide vraiment, nous aussi, à prier pour les possibilités, comme ça, à être ouvert, à avoir les yeux ouverts, et vraiment à être des gens qui donnent envie.
Avant de prendre un temps de prière commune, je vous invite à